toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour une nouvelle émission spéciale Tombée de la Nuit 2023. Vous allez pouvoir retrouver dans un instant Nicolas Chapoulier, metteur en scène et comédien pour le collectif 3615 Dakota, qui vous propose une deuxième fois ce jeudi aux Ateliers du Vent de et par la possibilité éventuelle des devenirs envisageables. Attention, c'est complet. On retrouvera aussi un peu plus tard Camille Boitel qui lui vous propose la lévitation réelle. Il sera en apparition surprise dans la ville ce jeudi après-midi. Et puis on terminera tout à l'heure avec une proposition gagnée du terrain numéro 4. Vous pourrez jouer au domino vendredi après-midi dans le quartier Courrouze. Et ça, c'est la programmation Amis des Tombées de la Nuit. Mais on commence directement l'émission avec un titre de Elvis Presley que vous devriez reconnaître et choisi par Nicolas Chapoulier de 3615 Dakota. Parler avec un certain Nicolas Chapoulier, je crois que c'est son nom. Bonjour Nicolas.
Bonjour, c'est mon nom effectivement.
Que vous avez peut-être déjà vu dans la compagnie Les Trois Points de Suspension, mais ça c'était il y a longtemps.
Oui exactement, c'était maintenant 20 ans donc qu'on traîne nos pattes dans le milieu culturel. Ouais.
Et que vous avez peut-être vu et que vous pourrez voir aussi cette année au Tombée de la Nuit avec ce spectacle qui n'en est peut-être pas vraiment un finalement. Est-ce que c'est vraiment un spectacle? On va bien savoir de et par la possibilité éventuelle des devenirs envisageables. Vous savez, j'aurais raté un bout, hein, forcément.
C'est le principe de rater le destin et de trébucher dessus.
Les devenirs envisageables. Alors, on était plusieurs centaines, alors trois peut-être de spectateurs aux Ateliers du Vent mercredi soir pour la première arène. Ce spectacle, alors je dis, est-ce que c'en est vraiment un? Est-ce que vous considérez de et par, et apparemment c'est comme ça qu'on l'appelle avec 3615 Dakota, la compagnie qui le porte, est-ce que vous considérez ça comme un spectacle ou comme beaucoup plus qu'un spectacle?
Alors en fait, je reviens peut-être un tout petit peu sur la genèse du projet. Donc oui, effectivement, nous on le pense plutôt comme une sorte de soirée, une sorte d'agora avec tout un tas de dispositifs et de performances qui nous permettent en fait de rentrer en relation avec l'avenir. Donc en fait, ce projet il est né pendant le Covid. On avait une carte blanche dans un théâtre à Genève, un théâtre assez fermé qui s'appelle le Théâtre du Grütli. Et puis il y avait comme vocation de se dire comment on ouvre ce lieu-là aux gens qui passent et comment on travaille sur une agora autour de ce concept qui pour nous on a pris un petit peu même comme une sorte d'espace, le futur, comme un endroit qui fait plus vraiment sens commun et de voir en fait comment on peut établir tout un tas de dispositifs et de performances pour rentrer en relation avec cet avenir et puis peut-être le détoxifier, peut-être le réimaginer, le redéfinir les contours, voilà.
On est ensemble avec des comédiens, des complices aussi, des bénévoles qui ont participé à la fabrication de ce que nous on va voir pendant peut-être un peu plus de 3 heures. Alors on arrive évidemment une scénographie assez flashy, comme ça, assez fluo, qui va piquer quelques slogans à la contestation la plus contemporaine. Hein. Ça va de Occupy Wall Street aux Gilets jaunes, en passant par Extinction Rebellion. Donc on sait qu'on on est dans quelque chose de dur quand même hein, dans l'époque d'aujourd'hui, mais on voit qu'on va faire un pas de côté voyez sans doute. On voit qu'une table remplie d'objets, tous plus inutiles les uns que les autres, va devoir être nettoyée, puis transformée. Et puis on va peut-être enfin se débarrasser de choses qui ne nous servent à rien du tout. Et puis il y aura un jeu, et puis il y aura encore beaucoup d'autres choses. Vous pourrez même manger du kebab de mammouth. Ça, c'est peut-être seulement à Rennes ou ça s'est fait ailleurs. En tout cas, vous le savez, le futur nous intéresse tous parce que c'est là qu'on va passer la fin de notre vie. Ça, c'est ce qu'on entend le magique Chris Well dire dans Plan 9 from Outer Space de Ed Wood. Ce futur-là, il est montré à tous en fait. Hein. Est-ce qu'il faut le conseiller aux déclinistes, aux collapsologues et à tous les autres effondristes ce moment avec 3615 Dakota ?
Pour nous, je reviens aussi un petit peu peut-être sur ce concept. Pour nous, le futur, c'est l'idée d'anticiper le meilleur et d'anticiper le pire et de nous promettre le meilleur. Et peut-être que la modernité nous a promis trop de promesses et que aujourd'hui, on se retrouve en déficit inverse en disant qu'aujourd'hui, on nous montre plus que des fins du monde, d'extinction, etc. Mais alors, cette soirée, elle n'est pas du tout interdite. Au contraire, l'idée, c'est vraiment de réunir tout le monde sur un concept collectif. Parce que, comme tu l'as
ouvert.
Dit si bien, c'est là où on va passer le reste de notre vie. Donc voilà, l'idée, c'était plutôt de se travailler sur... Donc nous, on travaille beaucoup sur la question aussi de l'humour, pour aussi sortir de cette chape de plomb écrasante, aussi de tous ces récits post-apocalyptiques. Et peut-être... que je parle des performances ou de...
On peut en évoquer quelques-unes, pas toutes évidemment, même si là, le jeu est un peu pipé, parce que la performance de ce jeudi, elle est complète. Donc si vous avez envie, parce que vous êtes séduit par ce que nous dira Nicolas, ben, il faut que vous ayez déjà votre place. Mais on peut évoquer quelques éléments, évidemment.
Vous pouvez nous appeler aussi, je peux laisser mon numéro de téléphone, si à un moment des
gens qui ont
besoin d'assistance. Donc, je décline peut-être juste un peu les formes. Donc, on commence par une sorte de cérémonie où on essaie de voir comment on se débarrasse de cette notion pour repartir un peu sur, on va dire, de nouvelles bases. Et on voulait partir du compost de la modernité, de tout ce qui nous encombre, et puis de voir comment on peut veiller sur ce tas de futur, et puis justement, après, de travailler sur toutes les récits et toutes les manières qu'on a de rentrer en relation avec lui. Donc pour l'occasion, on a fait intervenir un conseiller funéraire. Donc on parlait de la fin de vie à la Ed Wood, mais donc il y a un vrai conseiller funéraire qui est là pour trouver des astuces juridiques et poétiques, pour voir quel type de relation sur notre devenir fantôme on a envie de devenir post-mortem. On a une personne qui va faire une sieste métaphysique sous forme d'hypnose pour rentrer plutôt dans l'aspect de l'espace-temps de cette relation à l'avenir qui est débarrassée du cas de notre présence. Et après, on a tout un tas de jeux comme constellation où là, on rentre plutôt dans la mécanique de nos choix, c'est-à-dire de quels matériaux en fait l'avenir se produit, bah souvent des choix qu'on doit décider dans le présent, mais souvent ces choix, comment on les fait, comment on les oriente. Donc là, on a fait un jeu par exemple.
Il s'appelle le Futuropoly.
Alors, ça, c'est pas le Futuropoly.
C'est pas celui-ci.
Non, le Futuropoly, c'est pour nous l'idée de commencer par une sorte de jeu de prospective, de voir comment on peut faire survivre l'humanité jusqu'en l'an 3615. Et c'est pour nous un peu le début d'une soirée qui nous permet en fait de se rendre compte qu'il y a déjà tout un tas de récits qui encombrent l'avenir, qui soient collapsologiques, qui soient
futuristes,
complotistes, qui soient, etc. Et puis après, c'est une sorte de point de départ qui nous permet après en fait de déployer justement sur tous les stands et les dispositifs qu'on a en place pour trouver des alternatives.
Alors, vous êtes auteur, comédien, metteur en scène. Je parlais de la compagnie Les Trois Points de Suspension juste avant, parce qu'elle a sans doute formé une certaine manière de ce qu'est devenu ensuite, aujourd'hui, 3615 Dakota. De quelle manière exactement? Parce que j'ai pu voir, et je n'ai pas vu aucun des spectacles de Les Trois Points de Suspension, mais c'est vrai, quand on vous voit interpréter Shakespeare pour Bétonnière, créer une société secrète pour enfin être invité dans une société secrète, et encore bien d'autres propositions... très sérieuse et très loufoque en même temps, comme par exemple d'affiner des huîtres dans les sous-sols de nos villes. Ça a toujours été ça, le travail de Nicolas Chapoulier, votre travail, celui de repousser les choses là où on ne les avait pas encore mises, et puis de voir ce qu'on peut faire avec ça.
En fait, avec Les Trois Points de Suspension, donc on vient vraiment de l'espace public. On a toujours fait des spectacles très contextuels, enfin qui prennent l'espace, qui incorporent l'espace dans nos récits. Et en fait, il y a une dizaine d'années, on avait envie en fait de travailler avec une nouvelle identité, parce que nous, on habite sur un territoire franco-suisse, donc avec une frontière, et puis qui nous permettait en fait de travailler sur sur une autre manière de produire des spectacles ou des performances qui ne sont pas forcément destinées au milieu culturel dans lequel en fait on doit quand même beaucoup normativiser nos pièces avec du temps et la durée pour pouvoir plutôt faire des performances qui peuvent durer plusieurs jours, qui peuvent être écrites qu'une seule fois, de travailler avec 200 personnes s'il le faut. Et puis je rebondis sur Affiner des huîtres dans les sous-sols de nos villes, parce que nous on habite en Haute-Savoie. Donc aussi c'est l'idée d'amener la Bretagne à notre porte et de pouvoir parler de l'océan depuis là où on est. Et quand on rentre dans une grille d'égout avec un plongeur pour effectivement y ramener une culture ostréicole, ça nous permet de parler de l'Ifremer ou de parler d'écologie et d'iode. Et surtout de passer des bons moments pour boire l'apéro chez nous en Haute-Savoie.
On a pendant le spectacle de et par la possibilité éventuelle des devenirs envisageables, des tas de moments comme ça qui vont succéder, qui vont pas forcément être vécus de la même façon par chacun dans le public, parce que on va tous ensuite sortir d'un lieu commun pour aller voir ce qui s'y passe à l'extérieur. Et on retrouve, pour nous guider dans une partie de ces moments-là, un maître du jeu. Alors, on ne sait pas vraiment s'il est sage, cynique, désespéré, totalement insensible, ou un peu tout ça, tour à tour. C'est une sorte de dieu, mais c'est nous en même temps, ce personnage.
On peut dire que c'est un millefeuille qui représente les doutes et les joies et les peines qui nous accompagnent dans ce long chemin tortueux et sinueux qui est le futur.
En tout cas, on va essayer d'identifier ce qui fait qu'on peut sauver des choses sur cette planète pendant un moment de ces trois heures un peu extensibles aussi, ça peut durer un peu plus longtemps. La première étant bien sûr l'amour dans plusieurs de ces manifestations. Alors, on est des hippies finalement tous, ou vous êtes des hippies vous à 3615 Dakota ?
Alors je m'attendais pas du tout à cette question, je crois pas spécialement, mais en tout cas on essaie juste de voir les choses, en tout cas dans cette première partie effectivement on ouvre sur cette question là, après on rentre plus dans le dur en fait sur tout l'état de dispositif, l'idée c'est plutôt d'épaissir et de voir comment on rajoute de la complexité sur ces notions là, et c'est vrai que pour nous c'était nécessaire de passer du temps, parce qu'en fait c'est une soirée qui finit donc par une grande messe post-apocalyptique pour se désapocalypser de toutes les fins du monde qui squattent sur nos épaules dans nos têtes et qui parfois nous empêchent justement de voir tout ce que nous promet l'avenir. Et l'idée pour nous c'est de travailler en fait en même temps sur des temps plus collectifs, communs, retravailler sur la notion de rituel, de cérémonie aujourd'hui où on a peut-être perdu un peu des savoir-faire, des modes d'emploi avec la disparition du religieux notamment, et de voir en fait comment aujourd'hui on peut réinventer des moments collectifs. Pour nous le spectacle vivant c'est quand même un endroit super parce que c'est quand même une rencontre, c'est déjà une forme de rituel encore aujourd'hui. Et puis, sur la question du futur, donc cette grande fin de cette grande messe, l'idée, c'est d'essayer de voir comment on peut bouger et tous ensemble, et puis de voir comment on peut faire sortir toutes ces toxines et de voir comment on fait encore communauté. Et pour moi, on peut dire que c'est une forme peut-être hippie, mais en tout cas, moi, j'y vois en tout cas une forme de rechercher des formes d'espace commun, en tout cas, ou collectif. It's long never. Just like a willow, we would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Dans cette émission spéciale Tombée de la nuit 2023, Canal B vous permet d'entendre les propos de notre invité aujourd'hui, Nicolas Chapoulier, qui est metteur en scène de ce qui vous attend si vous avez déjà votre place pour ce jeudi soir, parce qu'il est complet, ce deuxième moment de et par la possibilité éventuelle des devenirs envisageables, comme quoi il est possible de faire des progrès, de s'améliorer. Quelques instants plus tard, on est meilleur, peut-être. C'est pas toujours le cas. C'est le collectif 3615 Dakota qui le propose. Alors, vous êtes metteur en scène et puis vous avez participé à l'écriture aussi de ce de et par. Vous êtes quand même assez nombreux dans l'équipe d'écriture et de conception. Et c'est assez dingue quand même, comme équipe quand même, non ? Alors là, sur ce projet, on est 12 et on a coécrit la structure avec Johanna Rocard, qui est rennaise.
Et qui est rennaise, mais désormais, elle vit près de vous en Suisse, ou elle reste à Rennes et elle travaille avec vous à distance ?
Elle continue à vivre à Rennes. Le Zoom, c'est ouvert beaucoup de ponts entre les distances. Et elle continue à vivre à Rennes. Et après, en fonction des projets, on se retrouve sur des résidences. Mais oui, effectivement, c'est une écriture très collective. Et donc, c'est tout un tas de dispositifs qui sont tous coécrits avec les personnes qui y participent.
Il y a pas mal de participants à ce moment-là qui sont des bénévoles que vous avez rencontrés et qui vous ont rencontrés il y a quelques jours seulement. Comment on active des rencontres comme ça de manière efficace, amicale et rapide ?
Ben alors là, c'est grâce aux Tombées de la Nuit hein, qui nous ont mis directement avec des personnes qui nous ont permis en fait de rencontrer une 25 personnes qui sont venues participer à un jeu qui s'appelle Constellation. Et pour nous, c'est super de rencontrer des personnes qui habitent sur place. Ça nous permet directement d'arriver un petit peu en amont et de rencontrer un peu le tissu local, de s'imprégner aussi de certaines choses, des fois des récits qui composent les lieux. Et là, donc, ce jeu Constellation, c'était l'idée de retravailler sur la forme du tarot. Donc, on a fait un jeu qui commence du punk à chien, qui finit au pangolin, en passant par le ventre plat au Greta Thunberg ou le compost. Et c'était l'idée de voir en fait comment les mythologies de notre modernité, en fait, sous la forme d'un tarot ou d'un oracle, de comment on met une question intime en pâture face à ces mythologies pour voir justement comment orienter face à ces étoiles de la modernité la mécanique de nos choix.
Vous allez forcément trouver que le futur a des atouts, a des moments qui ont l'air précieux et acceptable. Il y en a d'autres, on le sait très bien, qui n'ont pas bien se passé forcément pour tous, pour toutes. Est-ce que ça vous importe finalement, avec 3615 Dakota, quel sera notre futur ?
Est-ce que ça nous importe que d'autres vivent mal un futur ou que... Alors évidemment, on est comme tout être vivant, doué d'empathie.
On est un peu égoïste aussi parfois.
Et que évidemment, des fois, on se resserre sur nos propres individualités, mais on est encore naïvement croyant qu'on peut encore transformer des choses et qu'au final, moi, je trouve toujours intéressant que justement ces formes d'art, enfin de performance, en fait, elles sortent justement un peu quelque part. On a un peu abandonné la mise en scène du réel et du monde pour aller dans les centres d'art et les white box et les festivals et de voir en fait comment on peut se réaccaparer cette mise en scène et les récits qui les composent qu'on a parfois abandonné à la Startup Nation ou qu'on abandonne des fois au grand capital et de voir en fait comment aussi on peut se réaccaparer. Donc pour nous le futur c'est un endroit qui pourrait être autant un concept de marketing effectivement hein, que aussi un endroit où on a besoin ben, d'y produire nos rêves, nos espoirs, nos désirs. Et puis c'est toujours intéressant aussi de le remettre en contexte et de voir aussi que cette histoire de ce concept de futur elle s'est transformée au fur et à mesure des siècles et qu'avant on n'avait pas cette même relation, les dieux avaient pris la religion, s'était accaparé aussi ce récit-là, comment les modernes l'ont ramené sur terre pour le ramener au présent avec le matérialisme, avec le libéralisme, avec le socialisme, etc. Et après de voir aussi comment aujourd'hui la mondialisation justement elle a encore transformé cette nouvelle notion et que là aujourd'hui on arrive vers un futur et que l'écologie on a une sorte de nouvelle donne qui est à prendre en compte. Alors après en tout cas on a envie de chercher des endroits où habiter je crois et c'est plutôt l'idée de se dire que c'est comme c'est le lieu où on habitera tous, c'est de voir comment on peut arranger au mieux la déco peut-être.
On ne sait pas qu'une question de déco, évidemment, de et par. Je vous laisse finir le nom de ce spectacle par le collectif 3615 Dakota. Mais en tout cas, on a clairement l'impression, par moment, j'ai pu avoir cette impression-là moi, qu'on est un peu tous en train de foncer dans un mur, imaginaire ou réaliste ou vrai, mais qu'en fait, le mieux finalement, si on n'a pas que ça à penser, c'est-à-dire ce mur-là, c'est de se marrer un petit peu pendant que l'horrible arrive. Alors c'est peut-être pas comme ça que tout le monde le voit, ce travail que vous avez entrepris. Est-ce que certains viennent après les 3 heures, un peu plus de spectacle, viennent vous parler d'humain à humain, comme ça en disant « Ah ouais, j'ai bien aimé quand vous avez proposé cette solution-là ». Est-ce que certains voient un peu de et par 3615 Dakota comme une sorte de mode d'emploi pour survivre et faire survivre le monde ?
Alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est que, comme je disais tout à l'heure, en fait, le futur, il englobe tellement de concepts aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une sorte de grande enveloppe sur laquelle on a mis tellement un tas de choses qu'on ne sait plus jamais vraiment de quoi on parle quand on parle de l'avenir. Est-ce qu'on parle du temps qui passe et de l'espace-temps, ou est-ce qu'on parle de la place qu'on a de manière individuelle, qu'on pourrait appeler presque même l'égocène, et de se dire qu'en fait, le temps qui nous est apparti, c'est le nôtre, et qu'en fait, on existe dans un endroit où il y a des autres. Et donc, effectivement, nous, on a plein de gens qui viennent nous voir à la fin, et c'est très chouette de finir aussi dans un temps beaucoup plus dansant. Et à la fin, on réouvre justement encore tous les entresorts et on a des moments assez magiques, ouais.
Bon, en tout cas, le réel, celui de maintenant et celui de demain, il vous sert vraiment de matière première, en fait, pour la fabrication de ce spectacle-là. Ça a toujours été le cas, il me semble, mais avec ce côté un peu pataphysique, peut-être. Quelqu'un hier a proposé qu'on sauve la pataphysique, en fait, dans ce qu'il fallait sauver de l'humanité. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de se sauver ça exactement, de sauver la pataphysique?
Eh ben, peut-être qu'il faudrait faire une intelligence artificielle, un algorithme de Boris Vian pour pouvoir en parler de manière peut-être plus pragmatique, si c'est possible, pour pouvoir en parler de la bataphysique. Mais disons que nous, ce qui nous intéresse plus, je crois, c'est l'idée en fait de faire des diagnostics et de voir en fait comment le réel ou le futur ou tous ces concepts qu'on aborde en fait sont entrelacés de tout un tas de récits et de voir en fait comment au final ces fictions, eh ben nous, c'est notre métier là d'être auteur, autrice et de voir en fait comment on peut s'infiltrer à l'intérieur d'elles et comment on peut les transformer et comment on peut jouer et comment on peut des fois les détoxifier, comment des fois on peut... Mais dans un premier temps, cette soirée, elle sert plutôt, je crois, à déconstruire tout un tas de manières qu'on a de produire ce mot, ce concept, et qu'au final, quand on le prend de manière plus resserrée, on se rend compte qu'il y a plein de possibilités, qu'il y a plein de choses qui sont possibles et qu'au final, c'est des concepts qui sont très écrasants quand ils sont vus de manière aussi globale. Et aujourd'hui, comment parler d'écologie et de l'attachement aux ours polaires, alors que peut-être il faut retrouver des attachements peut-être plus locaux et des attachements à une écologie plus locale pour pouvoir retrouver des liens peut-être plus sincères, je sais pas.
Quel sera votre futur à vous, Nicolas Chapoulier, une fois que la deuxième aura lieu ce jeudi soir aux Ateliers du Vent?
Le démontage, c'est toujours une grande partie. J'invite toutes les gens et les personnes qui souhaitent venir continuer l'aventure à venir nous aider à démonter. Non. C'était une question à court terme ou à long terme?
Plus ou moins long terme. Ce soir, on démonte. Puis après, qu'est-ce qui se passe? On va rejouer. Vous allez rejouer de et par les possibilités ailleurs et longtemps?
Alors, dans la suite, on va plutôt rejouer d'autres spectacles avec la compagnie des trois points de suspension. Donc, on a tout un tas de spectacles qui tournent. Qu'on va rejouer d'ailleurs ici, je crois, avec les Tombées de la Nuit, qui s'appelle Hibou. Dont deux comédiens sont dans de et par la possibilité éventuelle et devenir envisageable. Et qui est un spectacle qui travaille sur les cérémonies funéraires. Et on tourne aussi un autre spectacle qui s'appelle L'Arrière-Pays, qui est un spectacle qui est lié en fait à l'enfance, où en fait on a enregistré des enfants pendant un an et c'est une sorte de stage survivaliste d'adultes qui essayent de revivre dans la cour de récréation, en post-synchronisation, dans ces voix en fait qui sont très touchantes et très cruelles.
Ça donne envie de le voir, évidemment. J'espère que les Tombées de la Nuit vous inviteront à nouveau, Hibou, oui, et puis pour d'autres spectacles prochainement. Retrouvez en tout cas toutes les infos sur le passage de 3615 Dakota, ici à Rennes, bien sûr, lestombeesdelanuit.com. Et puis sinon, vous retrouverez toutes les infos sur le site 3pointsdesuspension.fr.
C'est super, c'est bravo. J'ai envie de dire bien joué sur toute d'avoir réussi à ne pas écorcher toutes ces adresses IP.
J'ai pas réussi à écorcher toutes les choses que j'ai dites, mais certaines j'ai réussi et ça c'est merveilleux. Merci beaucoup Nicolas Chapoulier. On continue dans quelques instants cette émission spéciale Tombée de la Nuit 2023. It's now or never. My love. à suivre dans cette émission spéciale Tombée de la nuit 2023. Un morceau qui illustre le très beau spectacle en suspension de Camille Boitel, La Lévitation Réelle, par la compagnie L'Immédiat, à retrouver en apparition surprise dans la ville ce jeudi après-midi. Cette émission spéciale Tombée de la nuit 2023, nous allons parler avec Camille Boitel de cette lévitation réelle proposée par la compagnie L'Immédiat, compagnie créée par vous, Camille, il y a quelques années.
Alors créée par un spectacle qui s'est appelé L'Immédiat et donc qui a donné le nom à la compagnie. Et donc effectivement, c'était moi qui avais commis ce spectacle.
Il y a une vingtaine d'années, vous appreniez tout du cirque ou vous en connaissiez déjà quelques rudiments avant de faire l'école à Nini Fratellini?
Alors moi j'ai un parcours étrange parce que je fais partie de ceux qui ont appris sur le tas, mais vraiment très concrètement, le premier spectacle que j'ai fait, il y avait un gros tas d'ailleurs sur lequel j'étais, c'était assez direct. Et en fait, j'ai appris dès que j'ai pu, enfant. Dès que j'ai vu ça, en fait, j'ai vu quelqu'un faire un saut périlleux, je me suis dit, je peux pas ne pas faire ça. Donc après, j'ai plus jamais lâché ça. Donc j'ai fait ça depuis enfant. Et en même temps, j'ai jamais suivi un parcours vraiment normal parce que pour plein de raisons. Et donc même Annie Fratellini, elle m'a invité à faire l'école de cirque. Mais en fait, je me suis cassé le bras au bout d'un mois. Et finalement, j'ai pris du coup un chemin de traverse, donc à toujours retourner là-bas. Mais c'était pas une formation tout à fait normale.
Vous présentez ici pendant les tombées de la nuit dans des lieux surprises, on en évoquera peut-être quelques-uns tout à l'heure en fin de discussion, et bien cette lévitation réelle, une inversion acrobatique du vertige en surgissement impromptu dans l'espace public, ça je reprends les termes du programme, moi j'y vois comme une sorte de balade entre magie et mystique, en tout cas dans l'impression que ça donne, puisque on ne sait pas vraiment où vous êtes dans ce spectacle. Moi, je n'ai pas vu d'image encore. Il n'y en a pas, en fait. C'est très mystérieux ce qu'ils proposent autour de la lévitation réelle.
C'est un croisement entre deux aspects, c'est-à-dire il y avait ce désir depuis toujours de jouer pour des gens qui ne sont pas encore spectateurs. Ils deviennent spectateurs au moment où la chose arrive. En fait, quelque chose se passe qui pourrait être du réel, mais en même temps, on voit bien qu'il y a quelque chose de trop précis, trop profond, trop travaillé pour que ça soit complètement normal. Et donc, on s'adresse beaucoup à ces passants. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas une annonce, parce qu'en fait, sinon, ça fait un gros public qui surgit. Et alors, on sait que ça ne peut pas être du réel. Et en même temps, pour vous là, qui entendez parler de ce travail, on n'a pas non plus envie que vous le ratiez alors que vous l'attendez. Donc, effectivement, on pourrait vous donner quelques petits indices. Et dans l'idéal, dans le monde idéal, vous seriez des spectateurs un peu discrets, à pas trop montrer que vous savez.
Voilà, vous ne ferez pas vos petits malins ou vos petites malines, vous qui nous écoutez. Alors, moi, je suis assez intrigué et j'ai envie de la voir, cette lévitation réelle, pour laquelle vous n'êtes pas seul, en fait. Il y a quatre circassiens, circassiennes en tout, et puis autre chose, mais ça on n'en parlera peut-être pas. Vous l'avez fait avec, il y a 11 personnes qui se relaient avec vous en tout, en tout cas. Il n'y a pas toujours les mêmes personnes, mais vos mêmes complices à chaque fois.
En fait, c'est une équipe effectivement qui s'est augmentée, parce qu'en fait on a commencé à jouer cette chose et puis en fait il y avait d'autres gens qui voulaient le voir, et puis en fait on s'est retrouvé à être pas assez nombreux nous-mêmes pour pouvoir dire oui. Donc on est maintenant un peu plus nombreux, effectivement ça alterne, et on a même d'ailleurs des fois des participants involontaires parce que effectivement on a eu de l'aide. Donc quand même le problème principal de cette chose-là, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à toucher le sol, qui a plus la capacité en fait de gravité. Et donc en fait c'est pas du tout aussi agréable que ce qu'on croit d'avoir la capacité de voler, parce que là c'est plus la capacité de rester au sol. Et donc il y a parfois des passants qui nous aident effectivement à ramener cette personne par terre. Parce que c'est ça le but de la lévitation réelle, c'est de l'empêcher.
Le programme des Tombées de la Nuit précise un spectacle qu'on ne peut trop dévoiler sous peine de perdre l'élément de surprise essentiel à sa dramaturgie. Donc on comprend bien que là vous n'avez pas tout dévoilé, pas trop dévoilé, il faut quand même savoir où on va quand même.
En fait, ce qui se passe, c'est que de toute manière, si vous êtes là, c'est déjà que vous en savez un petit peu. Et donc, c'est assez rare les festivals qui jouent le jeu. Donc, les Tombées de la Nuit ont joué ce jeu-là un petit peu particulier, de se dire, en fait, on le confie au réel. Donc, en fait, on perd un peu quelque chose de l'annonce. C'est-à-dire qu'en fait, on donne l'occasion à des gens qui ne sont pas venus pour ça, de voir ce spectacle. Donc, c'est assez généreux comme démarche. Et en même temps, à ceux à qui je parle, effectivement, on va vous laisser, vous allez perdre un peu de surprise, mais vous allez peut-être quand même le voir, parce qu'en fait, la surprise de ne pas le voir n'est pas fabuleuse.
Je vais revenir sur un spectacle que vous proposiez depuis 2011, hein, La Construction du Vide, dont on peut voir quelques captations, peut-être pas intégrales, mais en tout cas quelques bouts de captations, où l'argument est complètement fou. Un homme est debout sur un petit meuble, haut et fragile, avec une masse, il le détruit lentement jusqu'à se retrouver dans une situation de plus en plus précaire. Est-ce que ça, c'est un peu un symbole de ce que vous aimez à faire en acrobatie, en cirque, comme ça, des choses complètement incroyables?
Alors en fait, c'est vrai que nous on aime toujours les fragiles et ceux qui vivent l'accident. Et donc là effectivement c'est quelqu'un qui se met dans une situation d'accident extrême, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment le moindre petit mouvement fait que ça craque sous lui, donc il détruit son propre sol. Effectivement dans la lévitation c'est quelqu'un qui n'arrive plus à atteindre le sol. On est quand même sur des gens qui ont des problèmes, et c'est vrai que moi ça me parle bien. Donc par rapport à un travail très virtuose, ou en tout cas de presque acrobatique, ce qui est beau avec ça c'est qu'on croise vraiment à la fois le fragile et en même temps une sorte de maîtrise de l'accident. Donc effectivement c'est assez caractéristique de l'identité de la compagnie.
On le voit de plus en plus, le cirque se mélange avec d'autres disciplines, avec la danse, avec les arts plastiques, pourquoi pas. Ça c'est quelque chose que vous avez vu apparaître, ou ça existait déjà quand vous avez commencé à vouloir devenir vous-même acrobate et faire du cirque?
Alors moi, en fait, j'ai d'abord trouvé le cirque de manière assez classique, de voir effectivement des gens qui faisaient des sauts périlleux, des choses comme ça. Et en fait, j'ai trouvé un outil fabuleux. Déjà, j'étais enfant et en fait, le cirque, on jouait en fait, on s'amusait profondément. Et en fait, c'était la meilleure technique pour apprendre, pour aller vite, pour aller plus loin. Et donc après, il y avait le goût d'aller toujours un peu plus loin. Et donc, c'était une manière de travailler qui était très intéressante avec une forme de jubilation. Et ensuite, effectivement, il y a eu des choses qui se sont mixées. Mais c'est surtout qu'il y a eu des gens qui se sont emparés de ces outils et qui ont pas forcément séparé en plusieurs catégories. Moi personnellement, je me suis jamais dit tiens, je mélange des choses. En fait, je me suis juste dit tiens, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse moins. Finalement, la virtuosité, une fois que on la voit, elle me parlait moins, parce que j'avais l'impression que ça connectait moins le public. C'est-à-dire que finalement, quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre faire des choses que lui-même a fait et se sent plus concerné. Par contre, on allait jusqu'au vertige, c'est-à-dire jusqu'à des points où c'est forcément concernant. On se sent en empathie directe, donc immédiatement relié à ce qui se passe. Et donc, ce cirque mobile divers, j'ai l'impression que c'est surtout des gens qui se sont permis d'utiliser un de ces outils, et qu'en fait, c'est pas si séparé que ça, au fond.
Thank you. On parle toujours avec Camille Boitel de la compagnie L'Immédiat et de cette lévitation réelle qui vous est proposée aussi ce jeudi 6 juillet pendant les tombées de la nuit. Il faudra que vous soyez observateur hein, puisque ces interventions sont des surprises qui vont avoir lieu dans la ville. Dans quelques instants, Camille nous dévoile quand même quelques indices qui vous permettront de le retrouver en ce jeudi après-midi. Ce spectacle, La Lévitation Réelle, vous a permis d'être lauréat du groupe Geste en 2021. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce groupe Geste en quoi ça peut être un coup de pouce plutôt bienvenu, le fait qu'il vous ait nommé lauréat?
Alors, ce qui est intéressant avec ce groupe Geste, c'est qu'il s'intéresse vraiment au travail physique, qu'on pourrait même dire soit de mime ou de travail d'objet ou de travail physique sans parole. Et donc, effectivement, cette lévitation rentrait bien exactement dans le... Enfin, presque, c'était la définition de ce je pense qu'ils sont en train de travailler. Donc, c'était assez logique, en fait, que ça leur parle. Effectivement, moi, en fait, j'ai beaucoup aimé travailler avec rien du tout. Juste comme si on travaillait dans le cerveau des spectateurs ou dans le ventre des spectateurs, même plus précisément, puisque c'est parfois on a une illusion donc qui pourrait avoir quelque chose à voir avec la magie, mais elle est vraiment liée en fait à son propre corps, qui ne peut pas ne pas croire. C'est-à-dire des fois notre cerveau ne croit pas, mais notre corps croit. Et donc effectivement ce groupe Geste, travaille effectivement sur l'idée même de cette ancienne technique qui est beaucoup moins utilisé, qui est le mime ou le fait d'imaginer des choses et de le rendre réel.
Donc en tout cas, oui, il y a une aide à la production aussi de leur part ou pas exactement?
Oui, complètement. En fait, c'est une aide financière qui nous aide tout le temps parce qu'en fait, nous, l'air de rien, les répétitions avec en plus, là c'est vrai qu'on a travaillé avec des gens souvent. Moi, je me suis débrouillé tout seul avec des amis. Donc on était dans une autre économie, mais là, on est dans une économie... professionnel, donc c'est très bien d'avoir un peu d'argent pour travailler.
Vous, Camille Boitel, vous êtes à la fois équilibriste, acrobate, danseur, comédien, musicien, pas tout en même temps.
C'est-à-dire qu'effectivement, il ne faudrait pas que je dise ça parce qu'on pourrait m'en vouloir. C'est-à-dire peut-être ni l'un ni l'autre, ni l'autre non plus, mais quand même, j'ai pris ce qui m'intéressait dans chacun de ces éléments. De toute façon, c'est toujours très compliqué de savoir ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas vraiment. Mais je suis pas spécialisé. Je me suis spécialisé dans le fait de pas me spécialiser, ou en tout cas de me spécialiser dans vraiment une écriture précise. Et donc, je me forme à chaque fois pour les œuvres précises qu'on écrit.
Mais tout de même, là, cette fois-ci, dans La Lévitation Réelle, est-ce que vous intervenez à chacun de ces titres-là, ceux que j'ai cités à l'instant?
Alors là, c'est particulier parce que normalement, j'étais pas dans La Lévitation Réelle, mais là, exceptionnellement, ici, c'est moi qui joue aussi.
Et donc, si on peut imaginer qu'il y a de la musique, peut-être qu'y a-t-il de la musique? Est-ce qu'on pourrait imaginer que ce serait vous qui l'aurez composé ou est-ce qu'on ne sait pas s'il y a de la musique et dans ce cas-là, on ne dit pas qui l'a composé?
Alors, effectivement... Il y a une composition qui traîne dans le coin, mais souvent on se colle aux musiciens de rue. Alors c'est un peu particulier parce que c'est une espèce de mélange entre du vrai et du pas vrai. On ne sait pas trop, en fait. Nous-mêmes, on est un peu perdus. En fait, c'est arrivé souvent que les choses se transforment parce que y avait quelqu'un en terrasse qui jouait de la guitare électrique, qui faisait un blues magnifique et faisait vraiment partie de la pièce. Mais en même temps, on ne l'avait jamais vu avant. Donc en fait, tout est un peu... Ça dépend des fois.
Alors c'est un spectacle qui se balade en tournée depuis 2022.
C'est ça, en fait on a commencé à tourner l'été dernier.
Et quel public il a rencontré? Est-ce que vous avez, vous, l'occasion de voir l'émerveillement dans le regard des spectateurs qui passent devant ce que vous leur donnez? Ou il n'y a pas possibilité parce que vous êtes trop concentré dans l'acte lui-même, même quand vous ne le jouez pas?
Alors moi j'ai une place un peu spéciale en général, effectivement, donc j'arrive à voir ce qui se passe. Mais effectivement, on parlait avec une des personnes qui joue, qui dit que des fois elle ne sait même plus où elle était, ce qui s'est passé exactement, tellement on est pris dans ce qui se passe. Après on a quand même des rencontres incroyables. Alors c'est vrai, ça dépend complètement des contextes. On a vraiment joué dans des contextes, on a l'impression d'avoir eu plein de vie avec ce spectacle déjà, parce qu'on a joué devant des foules énormes et devant trois personnes, et en fait ça a tout autant de valeur. Et on va se retrouver dans une ruelle cachée ou dans une grande rue passante. Et donc c'est toujours ce jeu-là qui est intéressant aussi pour nous.
Bon, là je pense qu'on peut, à l'heure qu'il est de cette discussion hein, qui va arriver à son terme avec Camille Boitel, puisqu'on ne dévoile pas grand-chose, vous l'avez compris, mais quand même, on vous donne envie de le voir, cette lévitation réelle. Et là c'est le moment où peut-être vous pouvez nous donner quelques indices sur où est-ce qu'on peut espérer vous croiser ce jeudi après-midi à Rennes.
Alors c'est incroyable parce que je crois qu'avec tous les festivals, on avait envie que le festival le fasse de cette manière-là, c'est-à-dire sans rien annoncer. C'est toujours ce qu'on préfère, mais en même temps, effectivement, on se dit, bon, mais comme c'est dans un programme, ça donne quand même envie que les gens puissent trouver. Donc effectivement, avec l'équipe du festival, on s'est dit peut-être juste, bon, c'est sous forme d'indice, on s'est juste dit, effectivement, le jour de la diffusion de cette parole, ça jouerait dans la rue commerçante rennaise, autour de 13h. Et puis, autour de 17h, sur une place portant le nom d'une grande duchesse bretonne.
Bon, je crois que...
C'est pas trop dur à trouver.
Je crois que les Rennais, les Rennaises qui nous écoutent ont à peu près compris où est-ce qu'ils ont une chance de vous voir avec vos complices aussi, de la compagnie L'Immédia, pour cette lévitation réelle. Vous retrouvez toutes les infos, alors pas... plus précise hein, que ce que vous avez dit, mais en tout cas quelques infos complémentaires si vous voulez en savoir un peu plus sur Camille Boitel, et bien sûr lestombeesdelanuit.com. Merci à vous, espérons que cette lévitation réelle soit le plus réel, la plus réelle possible.
Merci.
L'émission spéciale Tombée de la nuit, numéro 3, se poursuit dans un instant avec l'évocation de ce qui vous est proposé vendredi 7 juillet du côté du quartier Corouz avec Gagner du terrain, jouer au domino entre 16h30 et 21h30. Et ça, c'est la programmation Amis des Tombées de la nuit. On écoute ça juste après ce titre fort à propos, c'est le titre Dominoes par Paul McCartney. Sur Canal B, cette semaine, nous vous proposons quelques émissions autour du festival Les Tombées de la Nuit 2023. Aujourd'hui, eh bien, on parlera un peu de la programmation Amis et maintenant de Gagner du terrain numéro 4. Il s'agira de jouer au domino ce vendredi 7 juillet dès 16h30 grâce à Quista, coopérative d'urbanisme culturel. On va parler avec Alice Keva maintenant, qui est architecte chargée de mission art, territoire et société. Bonjour Alice.
Bonjour.
Peut-être pouvez-vous nous parler un petit peu de Quista d'abord avant d'évoquer ce jouer au domino dans ce gagner du terrain numéro 4.
C'est une coopérative d'urbanisme culturel qui est basée à Rennes et à Paris. Et en gros, l'urbanisme culturel, c'est une discipline émergente qu'on défend, qui en fait travaille sur des sujets de territoire en intégrant des artistes. Et donc grâce aux artistes, aller chercher un autre type de public que celui qui répondrait présent à des réunions publiques un peu traditionnelles en salle des mariages un jeudi à 17h, où c'est toujours un peu les mêmes qui répondent. Et en fait, grâce aux artistes qu'on mobilise sur ces projets, non pas tout à la fin, mais dès le début des projets, on crée des formats différents, on explore des nouvelles manières de travailler sur les enjeux de société, d'espace public, comment on s'approprie la rue, la place, mais aussi comment on prend soin d'un cours d'eau, d'une forêt, voilà, des enjeux de territoire avec des artistes.
Avec Cuesta, vous avez déjà gagné du terrain à quelques reprises du côté de la Courrouze. Ça s'est passé comment les trois précédentes ?
La démarche gagner du terrain, c'est une approche artistique, participative et ludique, où on travaille notamment avec de l'urbex. Donc l'urbex, c'est de l'anglais urban exploration. C'est une pratique qui vise à visiter des lieux qui ont été construits puis abandonnés par l'homme. Et donc là, gagner du terrain, c'est une démarche qui est portée par Territoire, donc l'aménageur de la métropole rennaise. Et cet aménageur a confié aux urbanistes Paolo Secchi, Bernardo Secchi, pardon, et Paola Vigano, et aux paysagistes Charles Dard, toute cette ZAC de la Courrouze. Et donc la démarche gagner du terrain, là aujourd'hui c'est la quatrième édition, mais la première a été lancée en 2018, et donc des démarches de concertation qui permettent de nourrir le dessin des urbanistes en récoltant la parole, les envies, les attentes, mais aussi les besoins des gens qui habitent sur cette nouvelle portion de ville qu'est la Courrouze.
Gagner du terrain numéro 4, jouer au domino, c'est dans le cadre des Tombées de la Nuit en programmation AMI ce vendredi 7 juillet. Donc ça s'adresse principalement, je suppose, aux habitants du quartier.
Oui, tout à fait. En fait, cet événement, jouer au domino, il arrive à la fin de 6 mois d'enquête où on a mené des ateliers dans l'espace public qui ont pris plusieurs formes, des formes d'exploration, de chasse au trésor dans le quartier, mais aussi d'interviews et de récolte de paroles. Ce jouer au domino s'adresse aux habitants et aux salariés du quartier, mais aussi il s'adresse aux Rennais, aux spectateurs des Tombées de la Nuit, aux enfants, aux jeunes, aux moins jeunes.
Il va s'agir d'aller se balader et puis d'arriver à un endroit secret, si j'ai bien compris. On se balade dans des lieux existants ou en devenir, parce qu'il n'est pas totalement terminé, ce quartier de la Courrouze.
Oui, voilà, surtout ce parc-là. Donc là, le parc des dominos, en gros, il va être aménagé dans les prochaines années. Et donc l'enquête, et là, le jeu, il permet de récolter des informations qui sont transmises aux urbanistes. Et donc là, on vous propose de l'explorer un peu sous la forme d'une friche paysagère. Donc pour l'instant, il est un peu brut, il est pas si cliné comme ce qu'on peut avoir une fois qu'un parc vient d'être livré. Mais en tout cas, il porte cette part un peu de mystère, puisque dans ce parc, on peut découvrir des vestiges du passé. Et on peut un peu partir à la recherche de son histoire. Et en menant l'enquête pendant 6 mois, on s'est rendu compte que des gens qui habitaient juste à côté ou qui travaillaient juste à côté étaient hyper surpris de découvrir ces pépites dans le parc. La ZAC de la Courrouze a tout un passé lié à un passé militaire et industriel, où en fait c'est un ancien site militaire qui produisait des munitions. Et donc dans ce parc, on peut voir un peu des vestiges de ça et des endroits qui ont été appropriés par les graffeurs, par des artistes, voilà. Et donc on vous propose de l'explorer sous le format d'un jeu où en fait vous arrivez à l'entrée du parc et on vous remet une carte. Sur cette carte sont indiqués des lieux symboliques, des lieux forts du parc à découvrir. Et donc on vous propose d'aller découvrir ces pépites. Mais quand on est tout seul, c'est moins drôle. Du coup, on vous propose de créer des binômes, de partir à la rencontre d'une autre personne qui explore le parc. Et donc, le jeu part de là.
Terrain numéro 4, jouer au domino, c'est à partir de 16h30 ce vendredi 7 juillet. Vous pouvez vous renseigner au préalable au 06 85 85 00 79. Le numéro figure sur le site lestombeesdelanuit.com. Alice Kieva, peut-être quelques informations complémentaires pour bien préparer ce jeu de domino à la Courrouze.
On vous attend à partir de 16h30 jusqu'à 21h30 au niveau de l'avenue Germaine Tillon. Vous ne pourrez pas nous louper, vous suivez les drapeaux rouges pour commencer ce jeu qui se passe dans une prise paysagère qui se transforme en terrain de jeu du coup à échelle 1. Et ce jeu, il accompagne la mutation du territoire de la ZAC de la Courrouze. Du coup, à la clé, si vous remportez les épreuves, à la clé, vous pourrez découvrir le secret spot où vous pourrez manger une galette, boire un coup et suivre les festivités dans ce nouveau lieu qui est en train d'être révélé à la Courrouze.
Such a derailer, you make me go all blind. I should have known better that day I lost my ground. Who told me I love who you are? She said, you're a superstar, and I'm cold. And I'm cold. Nights always get longer, and thoughts flow in mind. When you softly whisper, you know I can't stay tied. Who told me I love you? You're a superstar, and I'm cold, and I'm old. Oh.
C'était à l'instant Thomas Gerlet que vous retrouvez vendredi soir, vendredi 7 juillet, dans la programmation de I'm From La Nuit. Vendredi, vous le retrouverez aux alentours de 17h30, Thomas Gerlet, du côté du Grand 8, 20 rue Pierre Martin, près des manèges de la famille Masclet. Et le même soir, vendredi, vous retrouverez aussi les fameux Gus 2, le terrible DJ Martin pour terminer la soirée, et puis celui avec lequel on termine l'émission aujourd'hui, c'est Benoît Guchet, soit Fairy Tales in Yogurt. Si vous aimez la pop savamment azimutée, vous irez faire un tour pour le retrouver en live. On l'écoute avec ce titre Shocky Toppy. Nouvelle émission spéciale tombée de la nuit, vendredi de midi à 13h. Et puis retrouvez tout ça bien sûr sur canalb.fr. Ciao.
Shake it to the man, he robs. It's automatic landing in the waterfall, and you can feel the top, and you can feel the shock, and you can feel the visions of a man prone, and everybody's certain that he cannot speak. She's an easy roller, everybody sticks, and you can feel the top, and you can feel the shock, and you can feel the top from above. From above into a magic preacher man who shows up today, and his mind floats away around the band, and the jewels around that some fingers will shock. It is wind up the world on the band. It is wind up the world on. Check it to the many, bring it to the many robots. It's a magic landing in a waterfall, and you can feel the top, and you can feel the shock, and you can feel the visions of a many prone, and you can be your visions of her, visions of her in a mind of a sir. Fellas in the waiting room waiting for a doctor. He's trying to save up our parents, 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 to save up our parents,